Vous écoutez, on lit pour vous.
S'auto-diagnostiquer sur les réseaux sociaux. Un texte de Rosemée Autonne-T-Morin paru le 22 janvier 2025 dans la presse. Selon le web, j'ai un trouble du déficit de l'attention, un épuisement professionnel, de l'anxiété sociale et je me situe probablement sur le spectre de l'autisme. Vous voulez des preuves? Je perds toujours mes clés, j'écoute 100 fois de suite une même chanson, mes pensées partent dans tous les sens, je ne supporte pas certains tissus et je stresse avant les rassemblements festifs. Si je me fie aux nombreuses vidéos que me proposent les algorithmes, ce sont là différents signes de neurodivergence et autant de symptômes de troubles de santé mentale. Vous vous reconnaissez aussi dans ce qu'avancent ces créateurs de contenu? C'est normal. D'abord, il se peut que vous viviez effectivement avec une neurodivergence ou un trouble de santé mentale. Il se peut aussi que vous composiez avec certaines des réalités mentionnées sans qu'elles soient liées au moindre diagnostic. Stéphane Vial est professeur à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, et chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, IUSMM. Selon lui, c'est tentant d'aller chercher des concordances entre ce qu'on vit et des diagnostics. Par exemple, on vit dans une société d'accélération. Quand est-ce qu'on passe 3 heures de suite en concentration profonde sans toucher son téléphone aujourd'hui? Avoir le sentiment d'avoir de la difficulté à se concentrer, ce n'est pas nécessairement avoir un TDAH, c'est plutôt la conséquence d'une tendance sociale qui contribue à modifier la façon dont notre cerveau fonctionne au quotidien, dit Stéphane Vial. Notre époque comporte son lot de défis. On est hyper-stimulé, les temps ne sont pas jojo et c'est difficile de se projeter dans l'avenir. À travers le tumulte, on tente de saisir qui on est et ce qui ne va pas en nous. Tout le monde a besoin de définir son chemin de vie et pour ça, on doit comprendre qui on est, poursuit Stéphane Vial. Peut-être qu'on se cherche des étiquettes et que le diagnostic profane est une manière de s'en trouver. Le diagnostic profane? C'est l'expression que le chercheur en santé mentale utilise pour faire la distinction entre le diagnostic posé par des cliniciens et celui qu'on peut s'attribuer soi-même, notamment après avoir regardé des vidéos en ligne. La psychologue et neuropsychologue Geneviève Ruel confirme que certains patients la consultent après s'être auto-diagnostiqués sur le web. Parfois, ils ont vu juste. Tant mieux si des contenus de vulgarisation leur ont permis de mieux comprendre leur situation. Par contre, ils arrivent à l'occasion convaincus de leur affaire sans se douter qu'ils vivront une réelle déception. Avant, les gens avaient un choc en recevant un diagnostic, observe Geneviève Ruel. Aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est un drame de ne pas recevoir celui qu'elles imaginaient. Ça leur avait fait du bien de comprendre pourquoi elles se sentaient différentes et de trouver un groupe d'appartenance. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas ces symptômes ou qu'elles ne souffrent pas, ça veut dire qu'elles n'ont pas ce trouble-là. Là encore, il n'y a pas de quoi se taper sur la tête. Geneviève Ruel, qui pratique à la clinique de services psychologiques de l'Université du Québec en Outaouais, UQO, rappelle que les mêmes symptômes peuvent être ressentis dans plusieurs situations. Prenons le TDAH, suggère-t-elle. Les gens ont de la difficulté à se concentrer et à terminer des tâches, puis ils sont facilement distraits. Si je suis en dépression, je me reconnaîtrai là-dedans. Si je vois ça sur l'Internet, je peux inconsciemment choisir le trouble qui me convient le mieux. Avouons qu'il est plus socialement accepté de composer avec un trouble du déficit de l'attention qu'avec une dépression. Ensuite, si on se reconnaît dans les vidéos proposant 5 signes qu'on est, ajoutez ici la maladie ou le trouble de votre choix, c'est que ce type de contenu s'appuie souvent sur des lieux communs. Tout le monde connaît ces stéréotypes. Donc, ça peut facilement créer de l'identification, souligne Stéphane Vial. Ça ne veut rien dire de scientifique. Le chercheur reconnaît toutefois la qualité de certains contenus numériques. Il est d'ailleurs l'instigateur de Visualis, première banque d'images en santé mentale sur le web. Si le producteur de contenu a une visée d'éducation de la population et qu'il a un minimum de compétences pour le faire, on se rapproche d'initiatives qui favorisent la déstigmatisation. Même si c'est fait de manière non scientifique ou non totalement fiable, ça permet de parler davantage de ces sujets dans la société et, d'une certaine manière, de les dédramatiser, dit Stéphane Vial. Or, n'oublions pas que du drame, il y en a. D'ailleurs, peut-être qu'on se tourne vers le web pour chercher des réponses en attendant d'être entendu dans un système qui nous fait longuement poireauter. En matière de santé mentale, beaucoup de gens souffrent et la société ne prend pas ça au sérieux, poursuit Stéphane Vial. Si on faisait vivre aux patients qui ont le cancer ce qu'on fait vivre aux patients qui ont des troubles de santé mentale, ce serait un scandale. Rions de tout, même de la santé mentale, mais faisons attention de ne pas le faire au détriment des personnes qui vivent avec de vrais diagnostics. Si on peut sourire en se reconnaissant dans une vidéo humoristique qui dépeint la routine d'un individu neurodivergent, il faut se rappeler qu'il y a une différence importante entre lui et nous. Oui, je peux me retrouver dans une situation et avoir tout à fait raison, mais ce n'est pas nécessairement une affection majeure qui nuit à mon quotidien, nuance Geneviève Ruel. Il faut être dysfonctionnel pour que ce soit un trouble. Alors, comment savoir si je dois croire ou non la personne dans mon écran? Il faut revenir à un esprit critique de base, conseille Stéphane Vial. Il faut se demander qui me parle de quoi et dans quel but. Pourquoi je regarde ça? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi suis-je là? Bref, il faut résister au vortex aliénant du fil en continu. Bonne chance, tout le monde. C'était « S'auto-diagnostiquer sur les réseaux sociaux », un texte de Rosemée Autonne-T-Morin paru le 22 janvier 2025 dans la presse.
Sauver la mesure du patient d'exception, c'est sauver des vies, un texte de Jonathan Pratt et Catherine Boivin, paru le 27 janvier 2025 dans la presse. Pour les patients atteints de maladies rares ou de cancer, un accès rapide aux traitements dont ils ont besoin est souvent une question de vie ou de mort. C'est là que la mesure du patient d'exception s'est révélée être un filet de sécurité essentiel. Cette mesure permet aux patients d'accéder à des médicaments approuvés par Santé Canada et recommandés par leur médecin, même si l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, l'organisme d'évaluation des technologies de la santé du Québec, estime que le gouvernement ne devrait pas les rembourser. Une recommandation négative de l'INES ne signifie pas que ces médicaments sont inefficaces, car Santé Canada a reconnu leur efficacité. Cela reflète parfois plutôt les difficultés à évaluer certains médicaments. Aussi, même si le remboursement public d'un médicament n'est pas recommandé par l'INES pour l'ensemble de la population, celui-ci peut tout de même s'avérer nécessaire à la survie et au bien-être de certains Québécois lorsqu'aucune autre option de traitement n'est disponible. Cette mesure est particulièrement importante pour les patients atteints de conditions rares, car ils se heurtent fréquemment à des obstacles dans l'accès aux soins et aux traitements dont ils ont besoin. Reconnaissant ces défis, le gouvernement du Québec a adopté une politique pour les maladies rares qui souligne l'importance de la mesure du patient d'exception pour répondre aux besoins de ces patients. Cependant, bien que le Québec soit un chef de file en étant la première province canadienne à avoir mis en place une politique et un plan d'action pour les maladies rares, le gouvernement envisage désormais de modifier la mesure du patient d'exception afin d'en restreindre l'accès. Le gouvernement a déjà resserré les critères d'admissibilité à un autre programme d'accès exceptionnel en milieu hospitalier. En ciblant la mesure du patient d'exception, le gouvernement a maintenant l'intention de s'attaquer aux médicaments obtenus en pharmacie, ce qui affectera un plus grand nombre de Québécois. Cette situation est inacceptable. Le gouvernement du Québec a le devoir moral d'agir dans le meilleur intérêt des plus vulnérables. Tout comme le Code civil du Québec exige des citoyens qu'ils soient de bons samaritains en apportant de l'aide aux personnes dont la vie est en danger, le gouvernement du Québec a la responsabilité morale de veiller à ce que les patients atteints de maladies graves reçoivent les soins et les traitements nécessaires. La mesure du patient d'exception incarne ce devoir et repose sur l'évaluation clinique du médecin traitant. Il est d'autant plus inquiétant que le gouvernement semble vouloir modifier la mesure du patient d'exception sans mener de vraies consultations avec les patients et les cliniciens qui seront directement touchés. Bien que le gouvernement envisage d'apporter ces modifications d'ici 2 mois, le gouvernement n'a pas encore partagé les changements en question avec les patients et n'a pas lancé de consultation formelle pour leur donner l'opportunité de communiquer leurs perspectives sur ces changements. Aucune décision concernant les patients ne devrait être prise sans leur avis, surtout lorsque des vies sont en jeu. Pour les patients atteints de maladies rares ou d'un cancer à mauvais pronostic, le temps est un facteur déterminant. Plusieurs de ces maladies progressent rapidement. Et tout retard dans la prise de traitement peut entraîner des dommages irréversibles, voire la mort. Le gouvernement du Québec doit prioriser le bien-être des citoyens les plus vulnérables en préservant la mesure du patient d'exception. Il respectera ainsi son devoir moral de fournir des soins à ceux qui en ont besoin et offrira un avenir plus prometteur aux Québécois atteints de maladies graves. C'était « Sauver la mesure du patient d'exception, c'est sauver des vies », un texte de Jonathan Pratt et Catherine Boivin, paru le 27 janvier 2025 dans La Presse.
Le ministre Drainville, très ouvert à l'interdiction complète du cellulaire à l'école, un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 27 janvier 2025 dans le Journal de Montréal. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est très ouvert à l'idée d'interdire complètement le cellulaire à l'école, mais il préfère attendre les recommandations de la Commission spéciale sur l'impact des écrans chez les jeunes avant de trancher. À la suite d'une tournée dans les écoles cet automne, les élus de cette commission ont conclu qu'une majorité d'adolescents seraient en faveur d'une règle interdisant l'utilisation des téléphones intelligents pendant toute la journée d'école, y compris le midi ou pendant les pauses, rapportait le journal lundi. Citation : On a fait déjà un pas important en interdisant il y a un an le cellulaire dans les classes. On s'est toujours montré très ouvert à l'idée de l'interdire dans l'ensemble de l'école et d'en évaluer la possibilité. Fin de citation. A indiqué le ministre dans une déclaration écrite. Citation : On laisse les députés sur cette commission travailler, documenter adéquatement la situation et parler aux experts. Tout est sur la table et on sera très ouvert aux recommandations. Fin de citation, ajoute-t-il par le biais de son attaché de presse, Antoine de la Durantais. Les travaux de la commission spéciale reprennent cette semaine et ses recommandations seront dévoilées à la fin mai. Citation. Les conseils d'établissement de chaque école ont déjà le pouvoir d'interdire le cellulaire, comme c'est le cas à certains endroits. Fin de citation, précise le cabinet du ministre, qui rappelle que des parents ou membres du personnel peuvent contacter leur conseil d'établissement à ce sujet. les directions d'école aussi favorables. De leur côté, les directions d'école seraient aussi très favorables à une telle directive, indique le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, Nicolas Prévost. Citation : On serait très à l'aise. Ça crée beaucoup de problématiques, la gestion du temps d'écran chez les jeunes. Fin de citation, affirme-t-il. L'interdiction complète du cellulaire à l'école, plutôt que l'interdiction seulement en classe, comme c'est le cas présentement, serait aussi plus facile à gérer pour le personnel d'encadrement, ajoute-t-il. Si le ministre Drainville décide d'aller de l'avant avec une directive, il devra toutefois annoncer ses intentions rapidement plutôt que d'attendre à la dernière minute à la fin juin ou avant la rentrée, ajoute M. Prévost. Citation : Ce serait apprécié qu'on ait une marge de manœuvre. Ça aide à faire passer le message, fin de citation, et à bien mettre les choses en place, dit-il. À la Fédération des comités de parents du Québec, on estime toutefois qu'une directive ministérielle n'est pas la solution. Les écoles peuvent déjà interdire complètement le cellulaire, puisque cette décision relève du conseil d'établissement, ce qui demeure la voie à suivre pour impliquer les parents et tenir compte des réalités de chaque milieu, indique-t-on. De plus en plus d'écoles ont entrepris des démarches afin de bannir complètement les téléphones intelligents en prévision de la rentrée, souligne Nicolas Prévost. Citation : Il y a déjà un élan qui va dans ce sens-là. Fin de citation, dit-il. C'était le ministre Drainville très ouvert à l'interdiction complète du cellulaire à l'école. Un texte de Daphné Dion-Vien, paru le 27 janvier 2025 dans le Journal de Montréal.
À la Maison des aînés et alternatives de Longueuil, on veut cacher l'institution, un texte de Michel Hersir, paru le 27 janvier 2025 dans La Relève. La Maison des aînés et alternatives de Longueuil accueille sensiblement les mêmes résidents que dans les CHSLD, des personnes en perte d'autonomie ou avec une déficience physique. En se promenant dans les lieux, on se rend toutefois compte de l'effort mis pour cacher leur côté institutionnel, pour que les résidents ne se sentent pas placés dans un centre. Solène Delicourt ne le cache pas, elle est vendue par le concept. À l'occasion d'une visite des lieux, la gestionnaire responsable de l'établissement décrit tous les détails pensés pour que les gens se sentent chez eux, notamment on n'y voit pas de chariot, pas de poste infirmier. Les chambres ont toutes des douches. Les lieux sont décorés comme en 2025. Les résidents peuvent apporter leurs cadres et leurs meubles dans les chambres. Dans la salle à manger, on retrouve même des coupes de vin en verre. Ce n'est pas du homestaging, assure-t-elle, soulignant le désir de vivre dans un milieu où il y a une tolérance au risque. L'avant-scène et l'arrière-scène. Tout ce qui concerne l'établissement de santé, on le trouve dans ce que Mme Delicourt appelle l'arrière-scène, hors de vue des résidents. La buanderie, le poste d'infirmière, derrière des portes. Les serviettes et autres matériels importants dans le quotidien, dans de petites alcôves, soit des placards discrets, à côté des chambres. C'est un concept qui n'est pas institutionnel, explique Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés, à l'occasion de l'inauguration, le 24 janvier. Ici, il n'y a pas une routine de soins. Ce n'est pas « à 8 heures, on se lève, on fait les soins d'hygiène, on déjeune, après on fait une activité », donne-t-elle en exemple. Ceux qui veulent se lever plus tôt le font. Ceux qui veulent se lever plus tard aussi. Le personnel s'adapte aux résidents. Et n'essayez pas de trouver un télécopieur ici, le personnel est équipé de cellulaires et de tablettes. Une file d'attente. Il y a 72 places dans la nouvelle maison des aînés et alternatives de Longueuil, 48 pour aînés et 24 pour personnes avec un handicap physique. La moitié des places sont présentement occupées, Les premiers résidents sont arrivés le 18 novembre et les autres devraient graduellement les rejoindre au début du printemps. Le tout est divisé en 6 maisonnées lumineuses de 12 chambres. Chacune de ces maisonnées représente le milieu de vie des résidents avec un salon, un coin lecture, une salle à manger, une cuisine. Solène Delicourt reconnaît qu'il y a une file d'attente pour obtenir une place et qu'on ne peut pas s'y inscrire quand bon nous semble. C'est, par exemple, une travailleuse sociale qui peut faire la demande par le mécanisme d'accès à l'hébergement, la ressource qui regroupe les demandes de logement pour les personnes en perte d'autonomie. Et il y a des critères, précise-t-elle. Ça peut être la date à laquelle la demande a été faite ou l'état de la personne. La gestionnaire reconnaît cependant que la qualité des lieux peut donner envie à plusieurs personnes de venir y vivre. C'est vraiment la philosophie des maisons des aînés. Et ça s'en vient en CHSLD, assure-t-elle. La maison des aînés et alternative de Longueuil a coûté 59 millions de dollars. Elle est la 38e au Québec à voir le jour. C'était à la maison des aînés et alternative de Longueuil, on veut cacher l'institution. Un texte de Michel Hersir, paru le 27 janvier 2025 dans La Relève. Olympiques spéciaux, Granby tend la main aux bénévoles et aux gens d'affaires, un texte de Jérôme Savary, paru le 20 janvier 2025 dans La Voix de l'Est. C'est l'opération Séduction. L'organisation des Olympiques spéciaux de Granby est à la recherche de centaines de bénévoles et de centaines de milliers de dollars. Les 1000 athlètes attendus aux prochains Jeux d'été olympiques spéciaux Québec, du 6 au 10 août prochain à Granby, nécessitent un accueil et un accompagnement digne de l'ampleur de l'événement. Si la campagne de financement n'est pas encore officiellement lancée, cela en avait tout l'air. Lors d'une conférence de presse tenue à l'intérieur du Centre aquatique Desjardins de Granby, lundi après-midi, l'un des 10 sites où se tiendront les épreuves. Avec un budget qui pourrait dépasser le million de dollars, c'est le montant évoqué par l'animateur Jean-Charles Lajoie, président du CA des Jeux d'été, l'événement devra puiser la moitié de son financement auprès des milieux d'affaires de la région. L'autre moitié viendra des différents paliers de gouvernement, précise le président du CA. M. Lajoie souhaite que le financement des Jeux d'été permette de dégager des surplus et de laisser un legs record à la ville de Granby pour les athlètes locaux. Cette marge de manœuvre financière permettrait par exemple à la ville de créer un fonds pour aider les familles et inscrire leurs enfants dans une discipline sportive, comme le hockey ou le soccer, donne-t-il en exemple. J'aimerais qu'on soit l'organisation qui dégage le plus gros bénéfice de l'histoire des Jeux. Campagne Tim Hortons. La déclinaison régionale de la campagne de Tim Hortons, hashtag choisir d'inclure, soit la vente de beignes à l'image de cette campagne, permettra de financer l'organisation des Jeux qui auront lieu à Granby. La campagne du beigne « Choisir d'inclure » a pour but d'accroître la qualité et l'accessibilité des programmes sportifs communautaires pour les Canadiens présentant une déficience intellectuelle, précise la compagnie Tim Hortons sur son site. Félix Dionne, propriétaire d'un restaurant Tim Hortons à Granby, et conseiller municipal de Granby, précise que la campagne aura lieu les 31 janvier, 1er et 2 février. Le milieu d'affaires de Granby sera également mis à contribution et M. Lajoie se fait un devoir de contacter directement plusieurs commanditaires potentiels afin de les embarquer dans l'aventure. Le concessionnaire Chagnon Honda, représenté au conseil d'administration, fait partie des partenaires de la première heure. une nouvelle direction générale. La directrice générale de l'édition grenbilleienne des Olympiques spéciaux a passé le relais à deux nouveaux co-directeurs, Philippe Leblanc-Hamel et co-directrice Diane Gosselin, tous deux étant auparavant membres du conseil d'administration de l'organisation. Patricia Simard avait un mandat jusqu'au fait, elle l'a rempli et eux prennent le relais pour les livrables, a justifié Jean-Claude Lajoie en entrevue avec La Voix de l'Est en marge de la conférence de presse. Madame Gosselin, retraitée, a travaillé à Loisirs et Sports Montérégie, notamment dans le cadre des Jeux du Québec. Monsieur Leblanc-Hamel est quant à lui planificateur financier. Je pense qu'il faut porter un soin particulier aux services qui seront offerts aux participants, souligne la nouvelle co-directrice. Il faut s'assurer que les gens mangent bien, dorment bien, pour qu'ils donnent ensuite leur meilleure performance possible. Passée de 60 à 400 bénévoles, l'organisation souhaite également recruter 400 bénévoles. Pour l'instant, 60 personnes ont levé la main. On est dans les temps, rassure toutefois M. Lajoie. Du côté des athlètes, la quilleuse Élodie Vaudet était présente à la conférence de presse lundi après-midi. La femme de 35 ans, qui vit avec une déficience intellectuelle, travaille depuis un an comme plongeuse dans un restaurant à Ange-Gardien. Elle semblait impatiente d'être de la fête, où l'inclusion et le sport seront associés. Jean-Charles Lajoie est certain que cette expérience sera pour elle inoubliable, lui qui a côtoyé Élodie lors du défilé du Père Noël. Elle s'était confiée à lui à cette occasion, M. Lajoie nous rapportant les propos d'Élodie. « Moi, je suis habituée à me faire crier des noms, puis de me faire écœurer », lui avait-elle dit alors. « Là, de me faire applaudir comme ça, ça me fait tellement de bien. Pour ça, ça vaut la peine », justifie Jean-Charles, qui est par ailleurs porte-parole de Plein Rayon, un organisme de Cormansville qui favorise l'inclusion sociale de jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. C'était Olympiques spéciaux, Granby tend la main aux bénévoles et aux gens d'affaires, un texte de Jérôme Savary, paru le 20 janvier 2025 dans La Voix de l'Est.